Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h, l'émission de l'actualité scientifique. Je m'appelle Jean-Noël, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle émission d'une heure sur l'antenne de Graphite. Vous nous écoutez sur graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur internet et le 94.9 sur la bande FM pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise et la Somme. Bienvenue à tous, nous sommes le 4 décembre en 1639. C'est la première observation d'un transit de Vénus. C'est le transit de Vénus. On l'a observé pour la première fois en 1639. Alors un transit de Vénus, qu'est-ce que c'est ? C'est produit lors du passage de la planète Vénus exactement entre la Terre et le Soleil. Ça occulte une petite partie du disque solaire, un tout petit point. Et pendant le transit, eh bien, Vénus peut être observée depuis la Terre sous la forme donc d'un petit disque, un petit point noir qui va se déplacer devant le Soleil. C'est magnifique, hein. On peut voir des fois des images sur Internet. Vous pouvez regarder ça, c'est vraiment assez fascinant. Et c'est donc la première observation qui a eu lieu un 4 décembre 1639. Beaucoup plus proche de nous, en 1996, c'est le lancement de Mars Pathfinder. C'est une sonde spatiale de type atterrisseur qui a été développée par la NASA et qui s'est posée sur le sol de la planète Mars en 1997. Donc vous voyez, c'est assez ancien, ça a plus de 25 ans. Mars, c'est l'actualité. Évidemment, on sait très bien que c'est les prochaines années vont vraiment nous intéresser du côté de Mars. Et donc, le lancement de Mars Pathfinder, cette sonde spatiale de la NASA en 1996, le 4 décembre. Naissance, le 4 décembre 1908, d'Alfred Day Hershey, quelqu'un qu'on ne connaît pas, microbiologiste, généticien américain. En fait, il a obtenu le prix Nobel de médecine en 1969 pour sa découverte sur la réplication des virus et de leur structure génétique. Donc, on a eu énormément d'informations grâce à cette découverte d'Alfred Day Hershey. Enfin, décès le 4 décembre 2020, donc l'année dernière, de Narinder Singh Kapani, physicien indo-américain connu pour ses travaux sur la fibre optique. On lui attribue l'invention du terme, justement, fibre optique. Il est considéré comme le père de la fibre optique. Il est décédé l'année dernière. Et l'année dernière, on a eu beaucoup de complications au niveau de cette émission en raison du confinement. Il n'avait pas été possible de pouvoir animer cette émission. Et donc, on n'avait pas eu l'occasion de pouvoir évoquer la mémoire de Narinder Singh Kapani. Mais voilà, le père de la fibre optique décédé l'année dernière à 4 décembre. Et donc, c'était important dans cette émission de pouvoir un petit peu faire un hommage à cette personnalité et à ce grand inventeur de la fibre optique. Au niveau de l'actualité, on va se dire que le monde commence à devenir un peu fou. On voit très bien qu'il y a des choses qui sont en train de se passer et qu'on ne contrôle plus. Il y a à peu près plus de 80 startups qui se sont lancées récemment dans ce qu'on appelle la viande de culture. Alors vous êtes peut-être à table, je vous souhaite un bon appétit, mais on va parler de cette viande qui est fabriquée à partir de cellules souches animales. Et l'argument phare de ces startups, c'est de dire que cette viande, elle serait beaucoup plus écologique, beaucoup plus éthique, puisqu'elle ne nécessite pas d'élever, par exemple, des vaches. Et ces vaches qui consomment des terres agricoles, qui émettent du méthane, donc on va pouvoir faire de la viande de culture. La viande in vitro également, qui peut être produite localement, qui peut réduire les coûts, les émissions de transport. Bref, on se dit, c'est génial. Mais multiplier des cellules de telle sorte qu'elles fabriquent du muscle, et donc un steak à la texture et au goût qui vont pouvoir être satisfaisants, c'est pas une mince affaire. Parce qu'il y a un ingrédient qui est notamment indispensable au processus, c'est ce qu'on appelle les facteurs de croissance. Chez un animal vivant, la croissance cellulaire, elle est assurée par les vitamines, les minéraux, les hormones qui sont délivrées par le sang. Dans la viande de culture, eh bien, les cellules dépendent de facteurs de croissance extérieurs qu'il va falloir essayer d'ajouter dans la recette, entre guillemets, pour essayer d'induire cette prolifération des cellules musculaires et sanguines à grande échelle. Et habituellement, on va obtenir ces hormones de croissance à partir de procédés qui coûtent assez cher à fabriquer. Et ça a donc un impact sur le prix de la viande de culture. Et selon un institut, les facteurs de croissance représentent plus de la moitié, voire 95% des coûts de production. Donc un véritable impact. Donc on essaye justement de trouver des solutions pour rendre cette technologie moins chère. Il y a donc une start-up islandaise qui s'appelle ORF Genetics qui s'est tournée vers une solution alternative, c'est le blé. Alors le blé génétiquement modifié, il y a un gène synthétique qui est introduit dans la plante qui va induire la fabrication de la molécule par le blé, c'est ce que décrit Gunnar Steindorsson, qui est le dirigeant de cette entreprise islandaise. Et après 3 mois et demi de culture, le blé qui est récolté, on va pouvoir extraire cette molécule, on va pouvoir la purifier et elle est vendue aux fabricants de viande artificielle. Et le produit est 10 à 20 fois moins cher que les facteurs de croissance traditionnels. Et donc, cette méthode permet de se passer complètement de produits animaux et de produire des facteurs de croissance à grande échelle et à moindre coût. Donc, si vous me suivez, on a de la viande de culture et on utilise du blé génétiquement modifié. Et pour éliminer tout risque de dissémination, le blé, nous dit-on, est cultivé sous serre pour éviter qu'il y ait un petit peu cette prolifération de ce blé génétiquement modifié. L'entreprise a ainsi ouvert en Islande une serre de 2000 m2. Ça représente donc à peu près 130 000 plants de blé et cette serre est entièrement alimentée, nous dit-on, grâce à de l'énergie renouvelable, bien sûr, pour pouvoir vraiment avoir ce label écologique et vert. Sinon, ça ne fonctionne pas au niveau de la communication. La start-up utilise, par exemple, la même technique pour produire des protéines recombinantes qu'on va utiliser notamment pour, dans des médicaments ou aussi dans des produits anti-âge pour la peau. Donc, on utilise ces méthodes-là pour pouvoir produire ce genre de molécules. Donc, ORF Génétique, ce n'est pas la seule à se lancer sur le créneau. Il y a une start-up bruxelloise qui s'appelle Tamia Sciences, qui a été fondée il y a 2 ans, qui produit aussi toute une série de molécules, hein, des enzymes, des anticorps, des facteurs de croissance à partir de plantes génétiquement modifiées et pour des prix 60 fois inférieurs. Et donc, du coup, on sait très bien qu'il y a aussi un aspect économique assez important. Des molécules qui sont destinées à la viande de culture, mais aussi à la synthèse d'ADN, à la synthèse de produits pharmaceutiques, on n'a pas les médicaments, mais aussi à la synthèse de vaccins. Donc, il va falloir suivre un petit peu cela de près. Il y a d'autres entreprises qui envisagent également de fabriquer du plastique bio ou des carburants bio, des biocarburants à partir de plantes génétiquement modifiées. Donc, il y a énormément d'initiatives qui permettent de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre. Mais voilà, on veut fabriquer de la viande de culture, on utilise du blé OGM. Enfin, voilà, c'est assez... C'est notre société moderne, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Mais en tout cas, cet article permettait de faire un petit peu le point, cet article de Futura Science, qui nous permettait de comprendre un petit peu mieux les ambitions de ces nouvelles start-up pour notre futur steak que l'on mangera. Si vous en mangez un qui est un vrai, eh bien je vous envie. Allez, on écoute un peu de musique également dans cette émission. Like a shoe, like a sock, like an endless thought. The Cheapest Friend avec Mad Foxes sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour parler de l'actualité scientifique. On a donc parlé de cette viande de culture, mais comme vous êtes à table et moi non, eh bien j'ai envie de me venger. J'ai envie de vous dégoûter en fait avec cet autre article qui parle toujours de ce que l'on a dans notre assiette. On a notamment des émulsifiants, des colorants, des agents de charge, des édulcorants. Bref, notre nourriture, elle est souvent bourrée d'additifs de toutes sortes. Mais en fait, on ne soupçonne pas à quel point on en a tellement et à quel point on en mange quotidiennement. Il y a des chercheurs français de l'INSERM et de l'INRAE qui ont tenté de quantifier combien nous absorbons de ces additifs en se basant sur des analyses en laboratoire et sur des données d'une étude qui s'appelle Nutrinet qui porte sur plus de 100 000 personnes. C'est ça qui est intéressant, on est quand même sur un panel assez large de personnes et cette étude permet de noter la quantité et la marque de chaque aliment consommé au fil d'enquêtes assez régulière. Résultat de cette étude, nous avalons en moyenne plus de 150 grammes d'additifs par kilo de poids corporel et par jour, quand même assez important, ce qui pour un adulte de 70 kilos à peu près, le poids moyen d'un Français, ça représente environ 11 grammes par jour, c'est quand même assez important, ce qui veut dire plus de 4 kilos par an, c'est ce qu'a calculé l'association de consommateurs UFC Que Choisir. Et les 5% des Français les plus exposés, c'est-à-dire ceux qui consomment le plus d'aliments ultra transformés, c'est là où il y a le plus justement de ces additifs, eh bien en moyenne, on ingère 25 grammes de ces additifs par jour, soit 9 kilos par an. Ce qui est énorme, on ne s'en rend pas compte du tout. Il faut dire que la nourriture industrielle, elle contient beaucoup d'additifs. Et parmi les produits disponibles sur le marché français, 50% contiennent au moins un additif et 11% en contiennent plus de 5. Alors tous ces chiffres sont-ils pour autant inquiétants ? Eh bien, la plupart des additifs n'ont probablement aucun effet néfaste pour la santé. Ils apportent même des bénéfices comme les antioxydants, les polyphénols, les substances antimicrobiennes. C'est ce que reconnaissent les auteurs de cette étude. L'additif le plus consommé, c'est l'acide citrique, par exemple, qui est, lui, totalement inoffensif. Mais parmi le top 50, entre guillemets, des additifs les plus consommés, on trouve aussi un bon nombre de substances qui sont jugées préoccupantes par l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Un tiers des additifs les plus consommés sont ainsi suspectés d'effets néfastes sur la santé. C'est ce qu'alerte UFC Que Choisir. On peut citer par exemple les mono et les diglycérides d'acide gras, ce qu'on a comme le E471 sur nos paquets. Donc si vous avez des paquets à côté ou des emballages, regardez, le E471, le nitrite de sodium, c'est le E250, les polyphosphates, les E450, 451, 452, ils sont tous classés comme peu recommandables ou à éviter par l'association UFC Que Choisir. Alors, non seulement ces substances sont susceptibles d'avoir un impact sur la santé au niveau individuel, mais leur mélange produit ce qu'on appelle un peu un effet cocktail. C'est-à-dire que ça peut avoir des effets totalement inconnus encore pour l'instant. Et les auteurs de cette étude mettent en garde justement face à cet effet cocktail dans la revue Scientific Reports. Alors, où trouve-t-on tous ces fameux additifs? Eh bien, un peu partout. Et c'est ça qui est quand même assez compliqué. Les diphosphates, donc c'est les E450, sont par exemple très présents dans les cookies ou les madeleines. Le caramel E150, lui, on le retrouve dans le jambon ou le bœuf bourguignon. L'édulcorant acéfulmate, c'est le 950, c'est dans les chewing-gums sans sucre. On n'a pas de sucre, mais on a donc un édulcorant. Il y a le Coca Light aussi, il y a les yaourts 0%. Il ne faut pas se leurrer, hein, 0%, mais 0% de quoi, on n'en sait rien. C'est pas la peine de vider quand même votre frigo. Les quantités ingérées restent la plupart du temps bien en dessous des seuils de sécurité recommandés par justement cette Autorité européenne de sécurité des aliments. De plus, la plupart des effets des additifs ont été conclus à partir d'études in vitro ou chez la souris, donc pas à partir d'études épidémiologiques, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas fait des véritables études sur l'homme directement, donc on est sur des suppositions, on est sur des tendances, mais pour l'instant on n'est pas encore totalement avéré au niveau des risques. Il n'empêche que le danger, il reste parfaitement hypothétique. Les fabricants ont fait beaucoup d'efforts, nous dit-on, ces dernières années pour réduire le nombre d'additifs dans les recettes, notamment avec la mise en place d'applications. On pense à cette application Yuka, qui note défavorablement les aliments qui contiennent beaucoup d'additifs. Et du coup, il y a de plus en plus d'enseignes de grande distribution, qui font de la communication sur la suppression de ces additifs dans les recettes. Il n'empêche qu'ils sont encore présents, selon une étude de l'ANSES, c'est l'Agence nationale de la sécurité alimentaire, je ne me rappelle plus du terme exact de l'ANSES, en tout cas, cette étude explique que le nombre d'aliments sans additifs, il augmente depuis le début des années 2010, mais supprimer tous les additifs, nous dit-on, c'est complètement illusoire, parce qu'il y en a quand même nombreux qui sont indispensables et nécessaires pour des raisons de conservation et de sécurité. Le consommateur doit comprendre que sans additifs, les produits seront probablement moins bons d'un point de vue gustatif et avec une durée de vie plus courte. C'est ce que prévient Jean-Michel Le Serre de l'Institut Pasteur de Lille. Donc il faut savoir ce que l'on veut. C'est-à-dire qu'on veut des produits qui se conservent longtemps et qui soient bons, mais on veut des produits sans additifs. On n'y arrivera pas pour l'instant. Donc voilà. Mais cette étude est assez intéressante. Inquiétante quelque part parce qu'elle donne des chiffres concrets et donc s'il y a un chiffre à retenir, c'est que les Français avalent en moyenne 4 kilos d'additifs par an. 4 kilos, c'est quand même énorme, on s'en rend pas compte. Voilà. Donc bon appétit si vous êtes à table, faites attention hein, du coup à ce que vous mangez. Regardez les étiquettes, hein, sont pas storées, c'est ça qu'il faut regarder et essayer de décrypter un petit peu tout ça. Allez, sans aucun rapport et sans aucune transition, et pour essayer de parler un petit peu des animaux, il y a déjà longtemps qu'on en a parlé dans cette émission, on va parler des araignées. Les araignées qui, la nuit, ont pris l'habitude de tisser leur toile à l'abri des regards pour être tranquilles, mais à l'aide de caméras à vision nocturne et de caméras à intelligence artificielle, il y a des chercheurs de l'université Johns Hopkins des États-Unis qui ont pu enregistrer et suivre les mouvements de chacune des 8 pattes de ces araignées alors qu'elles pensaient travailler dans le secret. Et bien, ces enregistrements nous révèlent aujourd'hui comment ces araignées dotées d'un cerveau qui est vraiment petit par rapport au nôtre sont capables de créer des structures d'une telle élégance, d'une telle complexité et d'une telle précision. C'est assez intéressant. La première étape pour comprendre comment les araignées et leur cerveau, relativement limité en taille au moins, peuvent arriver à de telles prouesses, c'était de documenter et d'analyser leur habileté motrice, c'est-à-dire qu'elles ont vraiment une capacité de pouvoir construire avec leurs pattes des choses totalement importantes, intéressantes, faramineuses. Les chercheurs ont installé des petites araignées dans une arène équipée de caméras et de lumière infrarouge. Et donc, on a pu suivre les mouvements de chacune des araignées. On a analysé tous ces mouvements. Ça a été possible grâce à, après avoir mis au point un logiciel qui est capable de détecter la posture des araignées image par image. Donc ça veut dire quand même que ça a été assez minutieux pour essayer d'analyser tout ça. Et résultat, les chercheurs ont documenté tout ce que font les jambes ou les pattes de ces araignées pour essayer de créer une toile entière. Ils ont même finalement pu commencer à prévoir la forme de la toile à partir de la position d'une patte. C'est assez intéressant. Vous pouvez voir certaines images dans les articles qui parlent de ce sujet-là. Même si la structure finale est un peu différente, les règles que les araignées utilisent pour construire leur toile sont les mêmes. C'est ce que remarque Andrew Gordous, qui est biologiste et qui a donc travaillé sur cette étude. Donc, les règles, elles semblent codées quelque part dans le cerveau des araignées, mais pour en apprendre encore un peu plus et peut-être éclairer un petit peu le fonctionnement des systèmes cérébraux plus complexes, eh bien les chercheurs devront procéder à des expériences à base de médicaments psychotropes. Et oui, c'est quand même fascinant, on va les droguer, ces araignées, pour essayer de comprendre. Et leur objectif, ça serait de déterminer les circuits responsables des différentes étapes de la construction d'une toile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas encore capable de comprendre comment une araignée arrive à construire sa toile, comment elle l'envisage dès le point de départ. On a essayé de les filmer, on a décortiqué image par image et on ne comprend toujours pas. C'est ça qui est assez fascinant. Ça sera peut-être décrypté bientôt, le secret des toiles d'araignée, mais en tout cas pour l'instant, ça n'est pas encore le cas. Voilà. Deux informations qui n'ont aucun sens, enfin aucun lien les unes après les autres, mais c'est ça aussi Biotine, comme on parle de la revue de presse d'actualité scientifique, ça nous permet de parler de tous les sujets, c'est ça qui est intéressant. On va parler d'énergie. Je rappelle que l'énergie, c'est aussi l'un des grands défis technologiques des futures années. Juste après Balthazar sur l'antenne de Graphite.
maybe I don't wanna be this patient. Maybe I don't feel like pressing pause. Don't underestimate a heart that can take ages. Don't underestimate time is moving slow. Taking some time apart to see what's inside. We've been breaking the hourglass to see what's there. Only sand.
Hourglass, c'était Balthazar sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Graphite sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Je rappelle qu'Internet, en tout cas le site Internet graphite.net vous permet de récupérer aussi les podcasts de toutes les émissions. Si vous n'avez pas la possibilité de pouvoir nous écouter pendant la diffusion sur la bande FM, vous avez la possibilité de pouvoir nous écouter où que vous soyez quand vous le souhaitez, bien évidemment. Et puis vous avez aussi la possibilité de suivre l'actualité de Graphite sur la page Facebook pour vous tenir informé de toute l'actualité de votre radio curieuse. L'énergie, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, l'un des défis technologiques qu'il va falloir essayer de résoudre. On a besoin d'énergie, donc il faut trouver des solutions qui vont nous permettre un petit peu de répondre à nos besoins de plus en plus croissants. Parlons par exemple de ces panneaux solaires et de cette technologie qui va permettre de rendre les panneaux solaires deux fois plus efficaces et beaucoup moins coûteux. On va pour cela, peut-être utiliser ce qu'on appelle de l'arsénure de gallium. C'est un matériau semi-conducteur. Il faut savoir que les chercheurs ici intéressent depuis un certain temps, hein, c'est pas récent, et ils voient ce matériau comme étant celui qui serait capable d'augmenter les rendements des cellules solaires photovoltaïques. Grâce à sa capacité à pouvoir absorber la lumière et grâce à ses caractéristiques électriques particulières. Mais l'arsénium L'arsénure de gallium, c'est cher à mettre en œuvre, c'est toute une problématique. Et du coup, on l'utilise très peu ou on l'utilise vraiment dans des situations extrêmes, notamment au niveau des applications spatiales, par exemple au niveau des satellites. Et pour pouvoir essayer de contourner un petit peu cet inconvénient majeur du prix, des chercheurs de l'Université norvégienne de sciences et technologies proposent aujourd'hui une nouvelle façon de pouvoir fabriquer les cellules solaires. Leur idée, c'est d'utiliser ce fameux arsénure de gallium dans une structure avec des fils, des nanofils, donc des fils très très fins, plutôt que l'espèce de grosse couche quelque part. Et ça va permettre de pouvoir nécessiter une petite fraction du matériau qu'on va normalement utiliser par rapport à une quantité beaucoup plus importante. L'idée, justement, c'est que comme on a un coût de fabrication de cet arsénure de gallium vraiment important, il faut essayer de minimiser tout ça. Et donc, on va essayer de faire une couche, une double couche, une couche de ce fameux arsénure de gallium qu'on va mettre par des petits fils et sur une autre couche qui, elle, va être plutôt une couche classique de cellules en silicium en dessous. C'est ce qu'explique Elle Schwemann, qui est professeur au département des systèmes électroniques, dans un communiqué donc, de cette université norvégienne. Le tout, ça peut être obtenu grâce à un outil qui est déjà disponible dans l'industrie, à savoir une technologie assez particulière dont le nom, je vais éviter de le dire, mais en tout cas, ça, cette technologie, on la maîtrise, c'est-à-dire qu'on peut réussir à faire cette double couche, une couche de silicium et cette deuxième couche au-dessus avec ce matériau particulier. Et selon les chercheurs, eh bien, l'intégration d'une structure justement de ce fil d'arsénure de gallium sur une cellule, eh bien, ça peut potentiellement augmenter l'efficacité du système de 40%. C'est-à-dire qu'on a des coûts moindres en production et des coûts moindres en utilisation, mais alors une augmentation du rendement qui est quand même assez intéressante, ce qui permet de doubler l'efficacité des cellules solaires actuellement sur le marché, ce qui est quand même loin d'être négligeable, bien évidemment. Et pour aller plus loin encore, les chercheurs étudient déjà la croissance de ce type de structure en fil avec des substrats qu'on pourrait utiliser également comme par exemple le graphène et qu'on pourrait mettre sur des couches fines de graphène, c'est-à-dire que quelque part, ça serait encore tout aussi exploitable d'un point de vue rendement, donc au niveau de la production d'électricité, ça atteint des rendements assez importants, mais au niveau du poids, par exemple, si on arrive à avoir des couches fines de graphène avec une couche fine de ces fils d'arsénure de gallium, eh bien, ça peut résoudre des problématiques assez importantes de poids et donc de coût, bien évidemment. L'idée, c'est de produire des cellules solaires légères, mais également flexible, et ça, ce serait aussi quand même quelque chose. On en parle de plus en plus de ces panneaux flexibles. On en a parlé très récemment dans cette émission, il y a quelques semaines. Mais c'est aussi, comment dire, un objectif assez intéressant si on arrive à pouvoir atteindre la production de cellules solaires légères et flexibles qu'on pourrait utiliser dans des microsatellites, dans des drones qui pourraient être auto-alimentés. Bref, on a des applications que l'on a déjà identifiées pour pouvoir utiliser ces panneaux solaires qui seraient donc deux fois plus efficace, beaucoup moins coûteux par rapport à ce qu'on a actuellement. La technologie du panneau solaire est en plein essor actuellement. Ça avait stagné à un moment et ça revient là. Il y a vraiment des technologies vraiment intéressantes qui pourront nous concerner assez rapidement et on suivra bien sûr dans cette émission l'évolution de ces recherches. Mais en tout cas, voilà, on a des pistes vraiment intéressantes. Ça, c'était d'un point de vue électrique au niveau de l'énergie solaire. Autre chose, ça concerne le kérosène. Il y a une toute première usine qui va produire du kérosène, alors du e-kérosène, du biocarburant, à l'échelle industrielle en Allemagne l'année prochaine. C'est sous l'impulsion de l'ONG qui s'appelle Atmosphère. Et l'ambition de ce biocarburant, qui serait produit notamment à l'aide d'eau et à l'aide d'air, on fait de l'eau, de l'air et on a donc la vie, en tout cas on a du biocarburant, c'est de réduire bien sûr de moitié les émissions de CO2 du trafic aérien. Cette production sera toutefois très limité, seulement expérimenté sur quelques vols dans un premier temps. Pour l'instant, on n'est pas dans une grande échelle. En tout cas, ça peut être intéressant. Ça serait destiné au trafic aérien. Et donc, ce e-kérosène présente le grand avantage de brûler de manière totalement neutre lorsqu'il ne sort du moteur que la quantité de CO2 précédemment extraite de l'atmosphère pour sa production. C'est-à-dire qu'on est au final sur un rendement neutre. On arrive justement à n'avoir aucun effet négatif sur l'environnement. Donc sur le papier, c'est assez prometteur et intéressant. Attention toutefois, si l'utilisation de ce e-kérosène est bien neutre en carbone, un vol d'avion aura toujours des répercussions sur l'environnement, nous dit-on. Et donc cette ONG Atmosphère appelle ainsi qu'il entraîne notamment la formation de traînées de condensation et d'ozone à haute altitude qui peut aussi avoir des effets sur le réchauffement du climat. Néanmoins, ces effets seront en partie atténués par l'utilisation de ce fameux e-kérosène. Alors, globalement, Atmosphère estime que l'utilisation de kérosène 100% durable pourrait réduire environ de moitié l'impact climatique des avions. Ça peut être assez intéressant. L'usine, qui est donc en Allemagne et qui est précisément à Werlt, fonctionnera complètement à l'électricité verte, c'est-à-dire que ça va provenir à partir d'éoliennes et de panneaux solaires aux alentours. Cette usine utilisera essentiellement de l'air et de l'eau sur place pour produire de l'hydrogène. Et donc, du coup, on va pouvoir produire cet hydrogène avec cette usine qui dispose d'un module de capture de l'air destiné à en extraire le CO2 de l'atmosphère. Et cet hydrogène sera transformé ensuite en kérosène dans une raffinerie, toujours en Allemagne. Le carburant sera alors expérimenté sur Saint-Arvol en partance de l'aéroport de Hambourg. Atmosphère est donc une organisation, une ONG, but non lucratif, une ONG allemande, qui développe et promeut également, finance des énergies renouvelables dans une quinzaine de pays. À noter que d'autres solutions originales sont aussi à l'étude un petit peu partout dans le monde. En France notamment, il y a Total qui a mis récemment au point un biocarburant composé en partie d'huile de cuisson usagée. Toutes ces huiles de cuisson qu'on jette, eh bien, on pourrait les récupérer pour faire du carburant. La plupart des pays européens vont bientôt imposer des quotas d'utilisation de biocarburant. En France, la législation prévoit l'incorporation de 1% de biocarburant sur tous les vols au départ de la France à partir de l'année prochaine, avant de passer à 2% en 2025 et 5% à l'horizon 2030. Donc on est vraiment sur une législation de plus en plus contraignante pour laquelle il va falloir trouver des solutions au niveau des biocarburants. Et donc là, on aurait une solution assez intéressante de kérosène qui serait produit à partir d'eau et de CO2. Alors effectivement, sur le papier, c'est assez intéressant. On a bien compris que pour l'instant, on est sur un stade expérimental, bien évidemment, et qu'on essaiera de voir un petit peu plus comment on mettra ça en place par la suite. Mais voilà, une information intéressante également au niveau de l'énergie pour pouvoir répondre à nos besoins de plus en plus importants de cette consommation énergétique qui prend une allure folle. On a besoin d'énergie également pour écouter de la musique sur Graphite. À tout de suite. Eh ben oui, bravo, Got Me Wired, Django Django sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis sur le 94.9 ou sur graphite.net. Et il y a toujours un article qui va apporter un point de vue, nuancé par rapport à ce que l'on dit avant. C'est toujours intéressant quand on regarde un petit peu la revue de presse d'actualité scientifique. Là, on parlait de l'hydrogène comme étant une piste assez intéressante. Et il y a un autre article dans Futura qui apporte un avis un petit peu plus mitigé. C'était assez intéressant parce qu'on voit très bien que depuis quelques temps, pour faire rouler les voitures, les trains, voler les avions, alimenter en énergie des industries, on parle de plus en plus de l'hydrogène vert, c'est-à-dire qu'on va pouvoir produire à partir de sources renouvelables cet hydrogène vert qui apparaît aujourd'hui un petit peu comme une solution à la décarbonation, c'est-à-dire qu'on va remplacer le carbone par l'hydrogène, entre guillemets. Et l'année dernière, il y a la Commission européenne qui a présenté un grand plan hydrogène avec pour objectif de produire 40 gigawatts d'hydrogène vert d'ici 2050. L'Allemagne a, elle, carrément annoncé vouloir devenir le numéro 1 mondial de l'hydrogène vert. La France a prévu 7 milliards d'euros pour financer le développement de ce combustible. Donc on voit très très bien que c'est une piste de plus en plus sérieuse et une piste d'avenir. Selon l'Agence internationale de l'énergie, il y a 17 États qui ont déjà publié un plan hydrogène. Il y en a plus de 20 qui y travaillent. Et donc, au total, on estime que l'hydrogène pourrait représenter 10% de la consommation énergétique d'ici 2050. Ok, mais nous dit-on dans cet article, est-ce qu'on a bien mesuré toutes les conséquences de cette production massive ? L'hydrogène, c'est un puissant gaz à effet de serre indirect à courte durée de vie, 200 fois plus puissant que le dioxyde de carbone au moment où il est libéré, kilo par kilo. C'est ce qu'explique, c'est ce qu'explique Stephen Hambourg, qui est scientifique en chef de l'ONG américaine Environmental Defense Fund. Il est l'un des principaux auteurs du GIEC. Le GIEC, on en parle très souvent, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et il confirme justement que les fuites d'hydrogène pourraient, je cite, considérablement réduire l'avantage climatique de l'abandon des combustibles fossiles si elles ne sont pas réduites au minimum. Ok, c'est donc un point de vue un peu nuancé qui est assez intéressant. Il explique que l'hydrogène interagit avec les autres gaz de l'atmosphère de plusieurs façons. D'une part, il prolonge la durée de vie du méthane en retardant son élimination. Donc, il y a toute une réaction chimique que je vais vous épargner qui est évoquée dans l'article, mais que je vais vous épargner ici. Parce que, du coup, on se rend compte que l'hydrogène interagit. Plus il y a d'hydrogène dans l'air, moins on peut essayer de décomposer ou d'éliminer en tout cas le méthane. Cette réaction dégage aussi de la vapeur d'eau qui contribue à l'augmentation de l'effet de serre. On est donc sur une vapeur et cette vapeur du coup augmente l'effet de serre. Et puis l'hydrogène aboutit aussi à la formation d'ozone, de l'ozone troposphérique. C'est un autre gaz à effet de serre très puissant. Et donc aujourd'hui, on avance que le passage à l'hydrogène éliminerait l'impact climatique des énergies fossiles. Mais quand on prend en compte l'ensemble et notamment toutes ces fuites potentielles, ce n'est pas nécessairement le cas. C'est ce qu'il met en garde justement ce chercheur Stephen Hambourg. Alors, selon un document de la Commission européenne publié il y a 10 ans, c'était en 2011, jusqu'à 10% d'hydrogène pourrait fuiter entre guillemets lors de sa production, production donc du transport jusqu'au stockage, qui va pouvoir multiplier par 5 les émissions actuelles. Et donc l'hydrogène a en effet une haute propension à fuir du fait de sa faible masse moléculaire et de sa faible densité, beaucoup plus volatile quelque part. Et donc l'Institut de Potsdam pour la recherche sur l'impact climatique explique que la consommation d'une tonne d'hydrogène pourrait laisser échapper entre 5 et 30 kilos de ce gaz dans l'atmosphère, ce qui pourrait donc avoir un impact non négligeable sur l'effet de serre. Il y a d'autres scientifiques qui ont été interrogés par cette ONG et qui expliquent que ces craintes sont exagérées. Donc il y a une controverse qui commence à prendre forme. Notons que l'hydrogène étant un gaz hautement inflammable, eh bien les protocoles de sécurité sont plus rigoureux que pour le gaz naturel. De plus, l'hydrogène, aujourd'hui, il est quand même plus cher à produire que le gaz naturel. Cela incite à prévenir les fuites dans les infrastructures. Bref, le problème, c'est que les seuils de détection sont aujourd'hui trop élevés. Il est donc impossible de savoir la quantité d'hydrogène qui fuit réellement dans l'atmosphère. Et il est donc grand temps de se pencher sur la question, sans quoi un passage massif à l'hydrogène aura des conséquences graves sur la lutte contre le changement climatique. C'est ce que conclut dans son article Steven Hambourg. Et donc c'est assez intéressant parce que cette révolution hydrogène qu'on évoque de plus en plus depuis quelques années, si on se dit que cette révolution hydrogène aggrave le, aggrave le réchauffement climatique, on n'apporte pas de solution en fait quelque part. Donc on remplace la production de CO2 par une production d'hydrogène qui lui va augmenter l'effet de serre, qui va donc augmenter le réchauffement climatique. Voilà, si vous arrivez à suivre tout le raisonnement, ça veut dire que quelque part, la finalité reste la même. Et donc, on n'a pas résolu la problématique. Bon, on est sur des suppositions, on est sur des controverses actuelles sur ce sujet-là, mais c'est assez intéressant à l'évoquer parce qu'on verra par la suite si ça prend de l'ampleur, si du coup ça devient un vrai sujet qu'il va falloir évoquer. Mais en tout cas, voilà, dans cet article, on essaye d'en savoir un petit peu plus. Je vous incite, voilà, à vous à lire Futura Science, c'est de cet article qui vous permet justement, pardon, j'ai un chat dans la gorge, c'est pas simple, qui vous permet justement d'avoir une vision un petit peu plus exhaustive, ou en tout cas prendre du recul sur cet hydrogène dont on nous comptait jusqu'à maintenant tous les bienfaits. Mais là, voilà, on a un avis un petit peu plus nuancé ou contrasté à suivre, bien sûr. Allez, on écoute un dernier titre et on terminera cette émission avec toujours le dioxyde de carbone. Et cette fois, on va essayer de savoir quelle quantité de dioxyde de carbone absorbent les forêts qui sont près de chez nous. Ça va être un autre article assez intéressant.
Gonna show me some love, listen. And I'm not talking about the fake hugs and kissing. In 15 years, a lot of love is missing. I done already showed I'm not above the dissing. I'ma take what I'm owed, won't wait till I'm old. The game got rules and y'all breaking the code. Y'all don't really think I could be hot in the club. I think I'm washed up like a got in the tub, but I'm keeping it popping, the streets watching. I'm keeping them locked in, the beat knocking. Hear me coming with this song that I brung in. Daddy O told me this when I was a youngin'. Ain't nothing like hip-hop music. That's why we choose it. And the world just can't refuse it. This shit is underground like a gopher. Show a little love for it's over. Give me some of
that good old love. Gotta be the real thing. Something you can feel thing. Come on, let me make you sing.
Give me that good old love.
Give me some of that good old love.
Gotta be the real thing. Something you can feel, thing. Come on, let me make you sing.
Let me put y'all on like a bulb in a socket. In the club, niggas knock it with a dub in the pocket. They walk in the store, I love when they cop it. Make you other rappers struggle to top it. But this man flow with the greatest ease. And never did care about the haters, please. He done paid his dues, paid his fees. He done stayed overseas, made his G's. But now I got a wife and she bad as Hallie. My mom's is a militant, dad is rowdy. Fans kinda act like they glad I'm outie. But they probably sitting at home sad and pouty. You show me some love, I'ma show it right back. I know a tight track, so I throw it like that. My limo driver's white, my attorney black. Show me some love like I'm Bernie Mac. Yo,
give me some of that good old love.
Gotta be the real thing. Something you can feel thing. Come on, let me make you sing.
Give me that good old love.
Give me some of that good old love.
Gotta be the real thing. Something you can feel thing. Come on, let me make you sing.
This is for my Shaolin shooters and my Brooklyn teens. Uptown Bronx and them crooks and queens. I work like a maid when she cooks and cleans. Cause it's about to be a wrap from the looks of things. The game has changed, the game is strange. The game is lame and it ain't the same. But that's how it is, you can ask Iz. You can ask Biz, we did it for the kids. Listen here, this is different here. If you got an eye for detail and a fish your ear, I won't disappear, I'ma keep on giving. I'ma keep on living, I'ma keep being driven. I'm down to earth and I'm close to ground. It spit shit better than most around. This how hip-hop is supposed to sound. Tear the mother cat's posters down now.
Give me some of that good old love.
Gotta be the real thing. Something you can feel, thing. Come on.
on, let me make you sing.
Give me that good old love.
Give me some of that good old love. Gotta be the real thing. Something you can feel, thing. Come on, let me make you sing.
Give me some of that good old love. Chi-Town, St. Louis, Houston, Atlanta, Los Angeles, San Francisco, England, Scotland, Germany, Austria, Sweden, Switzerland, France, Italy, Croatia, Spain, Slovenia, Japan, Austria, Africa. Show me love.
Show me some love, motherfucker, show me some love.
Good of Love, c'était Master Haze sur l'antenne de Graphite. Il y a une plateforme qui est librement accessible qui s'appelle The Biomass Carbon Monitor. Ça permet de suivre les variations de la capacité des forêts à réduire le carbone présent dans l'atmosphère. C'est ce qui a été annoncé il y a quelques jours par l'Institut de recherche français de l'INRAE, l'Institut national de recherche agronomique et environnementale, pardon, et disposons depuis 2011 de données qui vont être mises à jour 4 fois par an. Et bien, ce Biomass Carbon Monitor a été développé par une société française qui s'appelle Kairos, qui est spécialisée dans la collecte et l'analyse des images satellites. Et donc, du coup, l'INRAE a pu travailler sur ce sujet et mettre en place cette plateforme qui permet d'accéder librement à des cartes mondiales de changement des stocks de carbone contenus dans la biomasse aérienne. Ça veut dire que les données permettent de quantifier les changements annuels de la biomasse et de déterminer le rôle que jouent les forêts dans la réduction de la quantité de carbone présent dans l'atmosphère. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Le résultat montre que certaines régions de l'hémisphère nord stockent le carbone, tandis que les régions tropicales touchées par la déforestation sont plutôt émettrices de carbone. Alors l'Institut de recherche met en avant plusieurs enseignements. Alors il y a un important puits carbone qui est visible dans la partie sud de la Chine, jusqu'à Hong Kong et Macao, qui représente un gain de l'ordre de 80 millions de tonnes de carbone par an depuis 10 ans. Sa formation est certainement due à la repousse de la végétation favorisée par les programmes publics de reboisement et de restauration, mais également les meilleures pratiques de gestion forestière, l'amenuisement de la pression par les populations locales sur les bois et les forêts. Donc du coup, on a parfois des bonnes nouvelles, on va dire. Par ailleurs, les arbres de Russie occidentale dans les districts fédéraux du centre, du Caucase, du nord, du sud et de la Volga ont séquestré 100 millions de tonnes de carbone chaque année depuis les 10 dernières années, c'est-à-dire plus que l'intégralité des forêts de l'Union européenne. Donc là aussi, encore une autre bonne nouvelle. Tandis que dans les régions tropicales, ce sont surtout le remplacement des forêts primaires qui sont riches en carbone par des plantations et la dégradation forestière qui explique un petit peu les changements observés. Le Brésil, la Bolivie témoignent de pertes de carbone considérables engendrées par la diminution de la végétation, tandis que le bassin du Congo et l'Asie du Sud-Est demeurent des puits de carbone aussi assez intéressants. Donc vous pouvez regarder sur le site de l'INRAE cette plateforme qui s'appelle Biomass Carbon Monitor et qui vous permet de savoir un petit peu la quantité de CO2 absorbée par les forêts qui exercent bien sûr un rôle majeur dans la séquestration de ces dioxydes de carbone présents dans l'atmosphère. On en parle depuis le début de cette émission, c'est un petit peu une thématique, un fil rouge. Ce dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère, si on arrive à pouvoir le capter, ça serait très bien. Et on sait très bien que justement, les forêts, c'est un petit peu leur rôle principal. On écoute un dernier titre et on se dit au revoir juste après. Et là, c'est Ismaël Ensemble. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité, de votre attention, bien sûr. On se retrouve samedi prochain pour la dernière émission de cette année 2021. Oh, ça aurait été encore une année compliquée, hein, bien sûr, mais on continuera à, bien sûr, feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique dans cette émission Biotine. Je rappelle que vous pouvez, bien sûr, récupérer tous les podcasts de toutes les émissions de Graphite sur le site internet graphite.net et nous suivre, bien sûr, sur le Graphite 94.9 sur la bande FM pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise et la Somme. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.